16h sur Art District. Entre nous soit dit, rencontre avec un artiste, un écrivain, qui nous parle de son actualité, son parcours, ses passions, ses inspirations. Cette semaine, Valère-Marie Marchand s'entretient avec l'écrivain Charles Dantzig autour de son dernier ouvrage paru chez Grasset, Le traité des gestes.
Il n'est pas toujours évident de joindre le geste à la parole, mais il est encore plus difficile de saisir le pourquoi et le comment d'un geste et de percevoir par-delà ce geste lui-même, ce qu'il signifie et ce qu'il tente à nous dire. C'est vers cette lecture silencieuse, vers cette observation de l'infime que nous convie Charles Dantzig dans son traité des gestes qui vient de paraître aux éditions Grasset. Traité des gestes au pluriel pour une histoire bien singulière, car on pourrait aussi parler d'atelier du geste ou de fabrique du geste. Ce qu'on découvre ici, c'est qu'à l'inverse du mouvement qui est inconscient, le geste fait sens et serait même, selon Charles Dantzig, pleinement intentionnel. Dans cette étude, volontairement transversale, l'auteur dit en effet tout ou presque sur les gestes qui nous construisent. Et puis, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que la main qui fasse geste. Il y a aussi des gestes des yeux, des lèvres, du cou, des bras et des jambes. Prenez par exemple le sourire, vous savez, ce fameux sourire de la Joconde. Eh bien, selon Charles Dantzig, le sourire n'est pas une simple expression, mais bel et bien un geste, un signe évident de sympathie qui se passe de mots et qui prouve bien que notre corps est geste et qu'il serait même, comme le dirait Pascal, un geste pensant. Tout geste engendre son propre mystère, ses propres interrogations. Certains artistes comme Egon Schiele ou Fellini sont des créateurs de gestes. Mais pour l'auteur, le pire des gestes est sans doute celui qui prend la pose. Aux yeux de Charles Dantzig, la posture n'est jamais bien loin de l'imposture. Je pourrais encore vous parler de la démarche ou de la métaphysique de la marche que Charles Dantzig compare à un acheminement intérieur. Je pourrais aussi vous parler du geste très érotique du fumeur, de la gifle, de la caresse, du baiser, du bras d'honneur, du salut militaire, ou du geste des bébés qui, selon Charles Dantzig, ouvrent leurs mains à la manière des étoiles de mer. Mais si je devais retenir un geste et un seul de ce livre, ce serait sans doute le geste d'adieu. Il s'agit de la représentation d'un geste qui figure sur un vase à huile funéraire grecque conservé au Metropolitan Museum de New York. Ce geste dessiné est attribué au peintre d'Achille. C'est un geste d'adieu certes, mais c'est aussi un geste de tendresse qui frôle la stèle funéraire du défunt et qui fait place à l'inattendu de la vie. Cela me fait curieusement penser à cette phrase de Romain Gary qui disait que la tendresse a des secondes qui battent plus lentement. Or, la littérature, c'est justement ce qui fait place à la lenteur, au temps retrouvé. Et ce traité des gestes, qu'on peut lire à son rythme, comme un livre de chevet, est un livre qui laisse toute sa place au lecteur et à ses voyages intérieurs. Alors, emportez très vite avec vous ce traité des gestes. Vous ne serez pas déçus puisqu'il ouvrira pour vous toutes les parenthèses de l'espace-temps. Toute première question. En fait, Charles Dantzig, c'est un petit peu pour savoir pourquoi ce traité des gestes. Est-ce qu'il y a eu... Moi, je connaissais la théorie de la démarche de Balzac. On connaît aussi quelques livres, mais c'est vrai que la notion de geste n'a pas trop été abordée ni en littérature, ni finalement, sauf peut-être Jean-François Bitter pour la calligraphie, par exemple. Mais il y a un manque, je trouve, dans cette syntaxe des gestes.
Eh bien, vous avez raison, ça vient de deux choses. C'est que d'une part, j'aime bien m'occuper de sujets de choses que tout le monde fait, auxquelles peu de gens réfléchissent. J'ai écrit un livre sur le cliché en littérature, et ça devait être le premier. Tout le monde emploie ou lit des clichés, et personne n'avait fait de théorie là-dessus. J'ai écrit un livre sur des listes, et à partir de listes, en essayant de réfléchir à ce que c'était qu'une liste. C'était mon encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Et là, les gestes, c'est la même chose. Et ça vient de cette observation, de cette double observation. D'une part, je vous disais là à l'instant que j'avais écrit il y a longtemps un livre sur les gestes en littérature, et à la suite de la publication de ce livre, c'était il y a une vingtaine d'années, un magazine m'avait demandé d'écrire un article sur ce que je voulais. Et cet article, que j'ai retrouvé en faisant des recherches là-dessus, pour celui-ci, était sur les clichés de gestes. Et donc, je peux vous dire que ça fait... Donc, c'est une conséquence d'une réflexion sur le langage écrit. Spontanément, je suis allé là-dessus. Et en réalité, ça fait 20 ans de documentation pour écrire ce livre. Et d'autre part, comme vous le disiez, il y a un grand manque en littérature. Moi, je trouve que, comme vous, que les écrivains et les romanciers en particulier sont très peu attentifs à ça. En général, quand ils caractérisent leurs personnages, c'est par l'habillement, deux ou trois teinte de voix, et puis c'est tout, ils font pas attention aux gestes. Et c'est pour ça que dans mon précédent roman, d'ailleurs, L'histoire de l'amour et de la haine, j'ai essayé déjà de caractériser un personnage uniquement par ses gestes. Je me suis dit, c'est un personnage de femme, et sans aucune indication psychologique ni autre que ça, c'est un personnage qui est... Parce que voilà, ça, c'est quelque chose de capital.
Alors il y a un autre, vous citez, bon, vous parlez du geste, vous dites que le geste est toujours narratif par exemple, que c'est un résumé d'histoire, et puis vous citez aussi Alberti qui est quand même en art et très connu, vous parlez de ça, il parle lui des les mouvements de l'âme se révéler à travers les mouvements du corps, et Léonard de Vinci aussi a beaucoup réfléchi sur le geste dans ses carnets, etc. Donc quand même c'est une longue histoire, mais on sent qu'il est caché, qu'il est dans le secret de l'histoire de l'art.
Oui, exactement. C'est une histoire qui est cachée dans l'histoire de l'art, qui est en matière artistique pure, si je puis dire, c'est-à-dire les tableaux et la sculpture, très souvent réduite à une symbolique. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait exact quand vous dites que je dis que les gestes sont narratifs, je dis précisément qu'ils ne sont pas que ça. Ils sont en partie narratifs, et pendant très longtemps, l'histoire de la peinture et de la sculpture a été limitée à... ou bien une symbolique des gestes, un peu comme ça dure encore dans l'opéra chinois, c'est-à-dire que tel geste par présupposé signifie telle chose, et beaucoup dans la peinture religieuse, comme nous savons, ou bien, et c'est ce que fait, en mon avis, de manière exagérée Léonard de Vinci, si je peux critiquer Léonard de Vinci, c'est que lui psychologise les gestes. Pour Léonard, tel geste veut dire telle pensée. Et ça n'est pas nécessairement le cas. La peinture et la sculpture ont souvent été enfermées entre ces deux choses, c'est-à-dire ou la symbolique ou la psychologisation.
Alors on pense Léonard de Vinci tout de suite, le sourire de la Joconde. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'étais assez surprise en vous lisant, parce que pour moi le sourire c'est une expression. J'étais pas dans le geste du sourire.
Eh bien... J'ai tenté de donner une définition du geste. Pour moi, c'est très simple, le geste est un mouvement conscient. Donc à partir du moment où je décide, peut-être de manière abusive, mais je ne crois pas, que le geste est un mouvement conscient, le sourire est un geste. Ce n'est pas uniquement une expression. Ça n'est pas exactement le cas, parce que l'expression est la conséquence ou du mouvement ou du geste, mais en soi, une expression, ça n'existe pas. Donc c'est un geste qui donne une expressivité, une expression. Et le sourire en est un exemple pour moi très frappant.
Le sourire aussi, c'est silencieux. Certains gestes sont, c'est ça la force de votre livre. Vous parlez de, bien sûr, de la beauté du geste, du côté inachevé de certains gestes. Vous dites même que certains gestes contredisent en quelque sorte ce qui est en train d'être énoncé. Donc c'est riche d'expressivité et de... Alors moi je pensais aussi, il y a des images que j'ai ramenées un petit peu avec moi là, oui. Je pensais notamment aussi à Michel-Ange, parce que je trouve que dans l'œuvre de Michel-Ange, je vous en parlais pas tellement, vous parlez de la statuaire grecque, du mouvement qui est bien représenté chez les Grecs, mais Michel-Ange, il y a vraiment deux images où il y a deux mains qui se rejoignent, et puis vous avez le David de Michel-Ange quand même, où il y a deux gestes qui sont justement à mi-chemin de l'histoire et du silence.
C'est vrai, et en même temps ce que vous dites est très intéressant, car à la fois la peinture, la sculpture, mais aussi la littérature, sont des expressions artistiques qui sont toujours incomplètes en matière de gestes, car chacun de ces arts ne saisit qu'un instant du geste. Forcément, on dit la peinture représente très bien le geste, mais ça n'est pas vrai, elle représente un geste arrêté. La sculpture, c'est la même chose. Et la littérature, par définition, sa description est très très lente et ne décrit jamais la complétude du geste. Et je pense que ça, c'est une des grandes innovations du XXe siècle. C'est le seul art ou moyen d'expression artistique qui est la complétude du geste, c'est le cinéma. Car nous l'avons du début à la fin. Et ça, ça a été un apport qui est maintenant pour nous très, très évident parce qu'on vit avec ça. Mais je pense que ça a été la vraie révolution du cinéma, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on avait pour la première fois dans l'histoire du monde la complétude du geste et pas la condensation du geste ou l'arrêt d'un geste.
Il y a un peu aussi l'histoire du geste. Je pense aussi à Marcel Duchamp, le nu descendant l'escalier, par exemple. La décomposition du geste en art, qui est très importante. Mais pour revenir à votre livre, Charles Danzig, il y a des images à l'intérieur de ce livre. Il y a des vignettes en noir et blanc, des petites vignettes. Donc je voudrais que vous me racontiez un petit peu le choix de cette iconographie, parce que c'est pas facile de choisir tel ou tel clin d'œil, si je puis dire, à la peinture. Comment ça s'est fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a mobilisé dans ce choix ? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez vous dire à travers ces petits clins d'œil, ces petites fenêtres sur l'histoire de l'art qui sont très présentes dans le livre ?
Oui, en effet, très présentes. C'est une chose que je fais depuis assez longtemps dans mes livres. J'ai décidé, mais même parfois dans mes romans, je vous parlais de l'histoire de l'amour et de la haine, là, qui est mon roman de l'an dernier, il y a deux ans, pardon, où j'ai inséré des images aussi. Pour moi, j'essaie d'insérer des images dans mes livres qui ne sont pas nécessairement illustratives. Dans ce livre-ci, parfois il y en a, parce que j'ai trouvé, par exemple, intéressant de choisir le geste le plus ancien. Je ne l'ai pas expliqué dans le livre, mais très intentionnellement, je voulais, dans mon livre, la représentation du geste le plus ancien qu'on puisse connaître et qui est ce vase grec qui est au Metropolitan Museum, qui est un geste sublime, qui est le premier geste d'adieu, qui est le geste d'adieu au moment des cérémonies funéraires dans la Grèce antique, et qui est ce geste merveilleux où on voit un homme poser les phalanges du dos de la main sur l'urne funéraire. C'était apparemment comme ça qu'on disait adieu à ses morts dans la Grèce antique, et je voulais que ce geste-là soit là parce que c'est le plus ancien représenté en peinture, en tout cas. Et d'autre part, ça n'est pas toujours illustratif. Par exemple, vous aurez remarqué que dans mon livre, il y a une photo d'Irving Penn, d'un mannequin qui a une certaine façon de s'asseoir et qui vient dans le texte et qui n'est pas commentée. C'est-à-dire que l'image n'est pas pour moi la parente pauvre du texte. Elle peut se suffire à elle-même et précisément parce qu'elle est une image, je n'ai pas nécessairement à la commenter.
Oui, puis même parfois, vous me permettez certaines libertés. Je pense par exemple, il y a une image qui n'apparaît pas. Je crois que c'est le portrait de Marie-Antoinette. À un moment donné, vous dites non, ça va. Ce tableau-là ne sera pas montré. Puis aussi, on pense aux fameuses. Je pense que c'est au début de votre livre. Pour remonter à l'origine du geste, c'est les mains négatives et positives qui sont préhistoriques, quoi. C'est ces empreintes. Vous commencez quand même par l'empreinte.
Oui, je commence par l'empreinte. Et c'est la première empreinte de main qu'on connaisse, qui est dans une grotte en Espagne, dans la Cantabrie, qui sont, je crois, des gestes de, pour autant qu'on puisse le dater précisément, de 32 000 ans avant Jésus-Christ, et que j'ai mis, qui est assez beau d'ailleurs, c'est-à-dire quelle est l'idée de ces gens qui ont fait au pochoir des empreintes de leurs mains. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Est-ce que c'était une manière de signifier que, au fond, après avoir peint tous ces aurochs et toutes ces chaînes de chasse, l'artiste lui-même méritait l'existence par ceux qui avaient transporté ces images et qui étaient sa main? Je trouve ça assez beau sans que ça soit dit. Et j'ai mis vis-à-vis de cette image-là, dans mon livre, une image que j'ai moi-même prise en photo à quelques pas de l'endroit où nous sommes, rue Bernard Palissy, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, qui était tout à fait fortuitement à peu près la même image au pochoir qui a été faite par des street artistes. Et donc, il y a une réitération de la représentation du geste et du geste qui est très intéressante.
D'autant plus que vous dites aussi qu'il y a un côté préhistorique, hein, dans tout geste. C'est ça qui vous intéresse. On sent que c'est vraiment à l'origine du signifiant, quoi. Vous êtes vraiment avant le signifiant même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On parlait du silence tout à l'heure.
Eh bien, merci de dire ça, car c'est un point que j'estime très important dans mon livre, c'est que j'essaie d'être en matière de gestes au-delà du signifiant. C'est-à-dire qu'il y a des livres très intéressants sur le geste, on connaît Barthes et l'Empire des signes et ces choses-là, mais je pense que la sémiotique est enfermée, un peu comme l'est la psychologie, dans une espèce de prison du sens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est très intéressant et qu'évidemment ces interprétations existent et sont tout à fait légitimes, mais en même temps, nous sommes enfermés dans une prison de sens en matière de gestes, et moi ce que j'ai cherché à comprendre, c'est justement ce que ça avait au-delà du sens. Et je donne des exemples pour moi excessivement frappants, comme par exemple le geste des bébés avec la main quand les bébés sont sur le dos, mais vraiment des bébés de 8 jours, 10 jours, 15 jours, quand ils sont sur le dos dans leur berceau, les bras ouverts, car évidemment les enfants ne savent pas que le fonctionnement de la vie c'est la méfiance, ils n'ont pas encore appris la méfiance, donc ils sont sur le dos, les deux bras et les deux jambes ouverts. Et la façon qu'a un bébé d'ouvrir la main, il ouvre très très lentement la main et déplie ses doigts et tourne un tout petit peu la main sur le côté, ce geste est exactement le geste d'une étoile de mer au fond de la mer sur le sable. C'est exactement le même geste. Et qui nous dit que ce geste n'est pas un souvenir des temps immémoriaux où nous étions quelque chose même avant les hommes. Je pense, et je dis dans mon livre, que nous avons des gestes végétaux qui sont peut-être des souvenirs de ces temps-là aussi. Je donne l'exemple d'un ami qui, quand on lui dit une chose qui lui paraît très douteuse, au lieu de dire « tu dis n'importe quoi », se met à très très lentement pencher la tête sur le côté comme ça, exactement comme une tulipe dans un vase. Alors, peut-être que j'exagère, mais peut-être pas. Et en tout cas, je pense qu'il est intéressant de poser cette question de l'origine immémoriale des gestes avant le sens.
Alors on parlait du sourire tout à l'heure, c'est vrai que vous dites aussi que le sourire sera votre dernier souvenir, si je vous ai bien lu. Mais aussi pour les gestes arrêtés, il y a quelque chose qui m'a bien plu, vous parlez des statues du monde entier, forment le peuple des gens qui attendent. Donc c'est cette notion un peu d'attente qu'il y a dans le geste qui attend une réponse. Parle au geste de prière, d'imploration, mais en peinture, c'est très présent, hein, dans la peinture.
C'est très présent, et d'ailleurs, la peinture a représenté merveilleusement ça, qui est l'essence même du geste, c'est que le geste n'existe que parce qu'il y a un autre. Et d'ailleurs, la peinture n'existe que parce qu'il y a un autre, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait un regardeur pour ça. Et la sculpture aussi. Donc ça, c'est la grande parenté entre les expressions artistiques et le geste, c'est l'autre. Et le geste n'existe que parce qu'il y a un autre. Je présume que les stylites du Mont Sinaï en haut de leur colonne sont assis et ne font aucun geste. Je pense que les grands vieillards dans leur maison de retraite, assis dans leur chaise roulante, les malheureux ne font plus un geste. Ils sont en dehors des autres. Eh bien, les gestes n'existent que pour ça, et tout geste est un moyen, au-delà de la communication, de communion, je pense.
Alors, il y a un autre geste, c'est celui de la marche, que vous aimez beaucoup. Vous dites que quand vous marchez en vous-même, c'est un geste de réflexion. Et puis, comme on parle d'art, moi, c'est vrai que j'ai pensé à Giacometti. Je ne sais pas ce que vous pensez, voilà, de ce temps-là, arrêter de ce temps en marche, puisqu'on parle beaucoup d'un certain mouvement en marche, mais de cette marche sculptée, arrêtée, de cette marche existentielle qui est représentée par un grand artiste, Giacometti.
Sublime. Et c'est une chose qu'il a en commun, lui aussi, avec l'art le plus ancien, qui pourrait avoir l'air d'un art religieux, mais comme on sait, évidemment, Giacometti n'était pas religieux, mais c'est la peinture des hiéroglyphes égyptiens, ou égyptiennes, c'est féminin, hiéroglyphes peut-être, oui, et qui est cette idée, quelle est l'idée de l'artiste de représenter la marche arrêtée? Et ça, c'est intéressant. Évidemment, il ne peut la représenter qu'arrêtée, ou en tout cas, pendant longtemps, on a eu cette idée. Vous citiez vous-même la femme descendant l'escalier de Duchamp, oui. Où il a décomposé le mouvement, qui était une idée qu'on eut. Voilà, exactement. Et qu'on reprise après les futuristes, il y a eu cette idée de décomposition. Mais je pense que c'était de la part de ces... En tout cas de Giacometti, plus que de la peinture égyptienne qui était une peinture à vocation religieuse, je pense qu'il y avait une idée essentielle en lui qui était l'homme existe parce qu'il a le mouvement, précisément. Et il l'interrompt parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais cette idée de démarche, qui est très souvent chez Giacometti, accompagnée d'un corps penché en avant comme si on allait tomber, c'est le côté déchirant de Giacometti, c'est-à-dire à la fois, je vais employer un mot auquel je ne crois pas beaucoup, mais enfin pour aller vite, la grandeur de l'homme qui est, il avance et en même temps, avançant, il est toujours au bord de tomber, c'est-à-dire c'est une sculpture sublime en ce qu'elle montre en même temps la vie et la mort.
Et la notion de vertige aussi, c'est cette aspiration vers le vide qui est très présente en art.
Très exactement, oui, vous avez tout à fait raison. Et même quand vous, puisqu'on parle de Giacometti, alors là, il ne s'agit pas de gestes, mais en même temps, dans mon livre, je le conteste parce que je pense au chien de Giacometti, qu'il a si souvent représenté aussi, et où il a eu une intelligence prodigieuse de ce que j'oserais appeler les gestes des chiens. Pourquoi priverait-on les animaux de cette conscience-là ?
Et puis alors, dans votre livre, vous parlez aussi, il y a des Van Dyck, qui est un peintre très connu, donc il y a plusieurs tableaux, je crois qu'il y en a quatre dans votre livre, des portraits de Van Dyck. Pourquoi ce choix ? Quel est votre regard d'abord d'écrivain sur Van Dyck, peut-être d'amateur d'art aussi, mais bon, pourquoi ce choix ?
D'abord, il y a une raison secrète qui a peu à voir avec le livre, mais qui est que pour moi, Van Dyck est le peintre des Noirs. Les plus beaux noirs du monde sont dans Van Dyck, c'est-à-dire vraiment, lui comprend parfois pour un peintre mondain ou maniériste parce qu'il faisait beaucoup de peintures de cour, et vraiment un peintre de génie pour ça, son emploi du noir est prodigieux, enfin personne n'a autant de nuances que Van Dyck dans les noirs, donc ça c'est un peintre que j'aime beaucoup pour ça. Et d'autre part, je l'ai pris pour exemple à cause de ce geste, pour deux raisons, c'est-à-dire que je parle dans mon livre d'un geste qu'il représente beaucoup dans sa peinture, qui est un geste courant à l'époque dans la peinture de cour, qui est les gens de pouvoir, les généraux, les rois se faisaient représenter les hommes de manière très avantageuse avec le poignet cassé sur la hanche. Alors ça m'a intéressé pour deux choses, c'est que ça m'intéressait premièrement pour l'interprétation des gestes. C'était à l'époque, et c'est un geste qui a été représenté pendant très longtemps dans la peinture et puis qui s'est arrêté après, c'était un geste considéré donc comme un geste noble, fier et viril. C'était des généraux et maintenant, des généraux ou des princes. Et maintenant, c'est un geste de poignet cassé sur la hanche qui serait considéré comme efféminé. Donc l'interprétation des gestes est une représentation sociale permanente qui change, contrairement à ce que pensent les gens, rien n'est figé, et il y a aussi une grande fantaisie dans l'interprétation des gestes, parfois aberrante et parfois pas. Et d'autre part, ce qui m'intéressait, c'est que ce geste a disparu et il a réapparu, et je donne dans mon livre, donc on ne l'a plus représenté dans la peinture, les gens de pouvoir ont décidé que ce geste n'était plus convenable pour représenter leur pouvoir et leur puissance et leur fierté, ça a été abandonné, et ce geste réapparaît tout d'un coup en 1960, et j'en mets la photo dans mon livre, en la personne de quelqu'un qui ne venait pas d'une famille noble, qui n'allait pas dans les musées tous les jours, qui était né dans une famille populaire du centre de l'Angleterre, et c'est Mick Jagger qui a réinventé ce geste. Donc là aussi, c'est très intéressant, parce que c'est un fils du peuple qui se réappropriait un geste de l'aristocratie. Et je crois que toute l'histoire du geste, comme toute l'histoire de l'art, est faite d'imitation et de vol.
Oui, et aussi on pense, pour le geste de pouvoir, à David. Le sacre, enfin, c'est vrai, c'est ce geste qui est quand même resté dans nos mémoires, de s'auto-proclamer.
Oui, exactement. Et dans David, il y a aussi une autre chose de passionnante, c'est le serment des Horaces et des Curias, qui est, d'après les recherches que j'ai faites, qui est probablement, pour moi, à l'origine du salut fasciste. Car, je le raconte dans mon livre, Mussolini disait que c'était le salut romain. Or, il n'existe aucune trace dans la sculpture romaine, ni dans les écrits romains, et on a un registre assez conséquent des gestes romains grâce à Quintilien, qui était un rhétoricien, qui fait un registre de gestes, et ce geste n'est référencé nulle part. Et il est bien étrange, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gestes dans la statuaire romaine, que ce geste n'y soit pas. Et je pense que... Je donne l'interprétation qu'en donne Orson Welles aussi. Orson Welles dit, en fait, Mussolini était très inculte, il a pris ça dans les films de Cécile B2000. Effectivement, le geste est dans les films de Cécile B2000, mais je pense qu'il a existé avant, et la première fois qu'il a existé, en tout cas dans les représentations que moi j'ai trouvées, on me contredira peut-être, c'est précisément dans le serment des Horaces et des Curias. Donc c'est une invention de David.
Alors, vous parlez aussi de certains artistes comme Egon Schiele qui sont des créateurs de gestes. Alors ça, il faut vraiment que vous nous en parliez parce qu'on sent que vous avez un coup de cœur, on sent vraiment que voilà, c'est pour vous, vous l'accompagnez en quelque sorte, cet artiste, dans sa création du geste.
Ah oui, Egon Schiele a droit à un chapitre et même deux dans mon livre, car pour moi c'est un très grand artiste, car il est un des premiers précisément, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à avoir sorti la peinture d'une espèce de représentation machinale des gestes et purement symbolique. Et il l'a sorti aussi de la psychologie, car ce qu'il y a de fascinant dans la représentation des gestes de Schiele, et il adore ça, tous ses dessins, tous ces tableaux, ou presque tous, sont des représentations de gestes, et essentiellement de ça. Et les gestes qu'il représente sont des gestes qu'on pourrait dire aberrants, car on ne les a vus nulle part. Et il imagine par exemple des gestes avec des poignets cassés qui ressemblent à des pattes de cigogne, qui sont excessivement mystérieux et à la fois très spontanés. Et la chose qui m'a... Donc c'est un grand créateur de gestes, c'est pas un imitateur de gestes, il ne reproduit pas, il a inventé des gestes, et c'est prodigieux d'inventer un geste, tout le monde ne fait pas ça. Et par-dessus le marché, ce qu'il a de passionnant pour moi, c'est qu'il fait ce que font les artistes et les vrais à mon avis, c'est qu'il a fini par imiter son art. Pardon de me comparer à lui, mais moi je sais très bien que je fais ça, je sais qu'à force d'écrire, je me suis mis à parler comme j'écrivais. Enfin, en réalité, c'est un rapport d'aller-retour, c'est-à-dire qu'au départ, on écrit un peu comme on parle, et puis on finit par être contaminé aussi par sa façon d'écrire. Eh bien, Schiele, il y a des photos de Schiele où il prend lui-même des photos, et je le reproduis dans mon livre, avec des postures et des gestes, encore une fois aberrant, mais nouveau. Et ça, je trouve ça fascinant. Un autre fait ça, dont je parle dans mon livre aussi, c'est Fellini. Fellini a fait ça dans beaucoup de ses films, et je pense que là aussi, la plupart des films de Fellini sont des films de gestes. Juliette des Esprits est remplie de gestes inédits que Fellini a inventé et qui sont merveilleux. Et il a eu aussi cette idée géniale dans le Satyricon, dans son adaptation du roman de Petrone, de faire à tous ces personnages des gestes qui n'existaient pas. Et dans une interview, il a dit « Mais après tout, nous n'avons pas tellement de souvenirs des gestes de l'Antiquité. » Il se trompait un peu, car comme je vous le disais, il y avait Quintilien. Mais enfin, il a eu cette idée géniale de dire « Mais pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas tout d'un coup mis leurs mains à l'envers devant les yeux pour signifier ou pas quelque chose ?» Et ça, c'est une grande idée. Car les grands artistes nous sortent du stéréotype.
Et vous dites aussi que, pour revenir à Egon Schiele, en fait qu'un grand artiste, il a l'art de ne pas être le fils, il est le fils de personne, oui, si on peut dire, et vous en faites en tous les cas un fils spirituel du Gréco.
Oui, je pense, c'est-à-dire que les filiations dans l'art ne sont jamais directes, et évidemment on n'est jamais en art le fils de ses parents biologiques, mais on est le fils d'artistes qui nous ont non pas influencés, mais qui ont révélé en nous ce que nous avions. Et je pense que celui qui a révélé ou qui a pu révéler à Schiele une partie de ce qu'il était, c'était Gréco, car il y a aussi chez Gréco une espèce de poésie du geste, pas une espèce, pourquoi dis-je une espèce, une poésie du geste qui est tout à fait inédite et proche de lui.
Et puis pour en finir avec Egon Schiele, il meurt, je crois, le 31 octobre 1918, une semaine avant, je crois, Guillaume Apollinaire, qui avait cette phrase absolument magnifique « Je fais des gestes blancs parmi les solitudes ».
C'est merveilleux, non? Et ils sont morts effectivement à 10 jours d'intervalle, et Apollinaire est mort pas loin, encore une fois, de là où nous sommes, boulevard Saint-Germain, et sa mort a été accompagnée d'une démarche et de gestes très étranges qui a été raconté par Jean Cocteau, qui était présent, enfin, qui veillait son corps. Et Cocteau était très ému, car en bas, de l'appartement d'Apollinaire, boulevard Saint-Germain, passaient des foules par centaines de milliers de personnes qui marchaient et qui marchaient en hurlant, car c'était des manifestations pour célébrer la fin de la guerre et qui hurlaient « Abba Guillaume, Abba Guillaume ». Et évidemment, ils pensaient à Guillaume II, mais c'était une démarche assez bouleversante.
Alors, on s'aperçoit en vous lisant que tout se recoupe, c'est-à-dire que cette mémoire du geste passe du cinéma à la peinture, de la peinture à la sculpture. On pourrait parler aussi de Clouzot, par exemple, quand il a filmé Picasso. Le geste du peintre filmé. Peut-être avez-vous un regard aussi là-dessus, Charles Danzig.
Le film de Clouzot est intéressant et en même temps, j'ai une petite réticence, c'est que... Mais c'est pas tellement à l'égard de Clouzot qui, là, pour une fois dans sa vie, a été un peu naïf. C'est plutôt la roublardise de Picasso qui me gêne un peu dans ce film. C'est-à-dire que Picasso est un immense peintre. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait sûr que le peintre doit se montrer peignant. Moi, en tout cas, j'ai cette idée qu'en tant qu'écrivain, je refuse toujours des photos de moi en train d'écrire. Nous n'avons pas à prouver ce que nous faisons. Et c'était... En même temps, probablement, au fond, je me trompe peut-être en disant ça, c'était peut-être une forme de modestie de Picasso. Il voulait prouver qu'il était peintre au grand public. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il est devenu si populaire. Mais est-ce qu'on a besoin d'être populaire ?
Est-ce qu'un véritable geste, pour vous, qui parle à votre regard d'écrivain, c'est celui qui ne prend pas la pause, finalement ? C'est le geste abandonné, c'est le geste en suspens, en attente, le geste qui fait une histoire, mais une histoire à faire, à découvrir.
Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. J'ai horreur d'une chose en tout, c'est la posture et l'imposture. Et d'ailleurs, j'ai écrit un roman sur l'imposture. Et les gestes qui me touchent le plus sont en effet les gestes qui sont a priori ineptes et non pas de sens immédiat et qui sont précisément une forme de création. Vous parlez des gestes de Schill que je trouve prodigieux, mais je donne aussi dans mon livre des exemples de certains comédiens comme par exemple un geste que j'ai trouvé très très beau de Fanny Ardant dans une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques années où tout d'un coup, hors de tout sens par rapport à ce qu'elle disait, elle avait ce que j'appellerais un tombé de main le long de sa cuisse qui ne voulait en soi rien dire mais qui était une création et qui était une image. Car le geste peut-être une image dans le sens de création poétique de la chose.
D'autres images, on pense, il y a un tableau de l'atelier, des élèves de l'atelier de Rembrandt, jeune élève et son écolier, qui est représenté dans votre livre. Il y a aussi Jean Livens l'Ancien. Bon, on vous sent attentif quand même à... Quelles sont vos préférences en peinture est-ce que vous aimez l'art contemporain? Est-ce que vous êtes plutôt... est-ce que vous êtes collectionneur, Charles Danzig?
Un peu dans la mesure de mes pauvres moyens, j'achète de l'art contemporain. Je suis un grand amateur d'abstraction géométrique. Il ne peut pas y en avoir dans mon livre, car nécessairement, il n'y a pas de geste dans l'abstraction géométrique. Mais... j'aime beaucoup ça, j'achète de la photo aussi, mais voilà, comme j'ai des moyens d'écrivain, je ne peux pas m'acheter des choses très chères, mais je suis très attentif à ça, et je passe ma vie, les gens savent que je lis parce que j'ai écrit des livres sur la littérature et que je suis écrivain, mais depuis que j'ai 6 ans et qu'on m'amenait dans des musées, je passe ma vie dans des musées, dans des galeries, j'ai des amis peintres, et c'est une chose qui me nourrit. Enfin, je veux dire, je pense que... Je ne crois pas, de même qu'en littérature, je ne crois pas au genre, je ne crois pas qu'au fond il existe quelque chose qui s'appelle le roman par opposition à la poésie, par opposition au théâtre. Je pense que tout ça est un tout, et bien de la même façon, je pense qu'il existe un seul art. Je ne vois pas de différence fondamentale entre la peinture, le cinéma, la littérature, la musique. C'est un seul art, c'est une espèce de grand sac à images d'où chacun sort son mode d'expression. Et en tout cas, moi, beaucoup, beaucoup de choses dans mes livres proviennent de la peinture. Je suis très, très mise en marche par la peinture. Quand je vois... Et d'ailleurs, le tableau de Van Dyck dont vous parliez tout à l'heure est un peu à l'origine de mon livre aussi, car j'avais déjà réfléchi à ça. Donc... La peinture me permet... Je trouve que quand on va dans des domaines différents du sien, on apprend plus de choses. J'apprends plus de choses sur la littérature par la peinture que je n'en apprends par la littérature. Car ce sont des équivalences et les peintres ont des systèmes d'imagination différents des nôtres, mais qui nous permettent... à nous écrivains, mais peut-être que les écrivains peuvent aussi apprendre des choses aux peintres, à fonctionner différemment. C'est-à-dire que je pense que l'abstraction géométrique m'a appris des choses sur les formes de mes paragraphes à l'intérieur des livres, que je fais sous forme de bloc, et ça vient de là. Mais certains, je vous parlais des noirs de Van Dyck, et je sais très bien que je pourrais vous citer dans tel paragraphe d'un de mes romans qui s'appelle Un film d'amour, qui s'appelle Je m'appelle François, un jeu sur les couleurs et les descriptions de couleurs dans mon roman qui viennent très précisément, pour les noirs en tout cas, de Van Dyck.
Alors un autre artiste dont on n'a pas parlé, c'est Simon Vouet. Alors là, vous parlez de gestes licencieux, donc c'est le peintre très officiel de Louis XIII. Alors moi, bon, j'aimerais, c'est un personnage déjà, là on est aussi dans le roman, on sent que vous aimez, c'est derrière toujours un personnage, et vous passez du roman, enfin du tableau, à une autre histoire. En fait, c'est un peu le jeu des poupées russes, quoi. Vous passez à l'intérieur.
Un peu, mais je crois que nous... Dans la vie, je crois qu'il, et même en art, je crois qu'il n'y a que des êtres. Les choses qui m'intéressent sont les êtres. Et donc, Simon Vouet a cette chose, et les êtres dans ce qu'ils peuvent avoir d'inattendu. Et Simon Vouet, comme vous le disiez, qui est d'abord un très beau peintre, et je regrette qu'il n'y ait pas eu depuis jamais peut-être d'exposition Simon Vouet à Paris. Je me rappelle d'une exposition sur les maîtres du 17e quand j'étais petit au musée du Jeu de Paume. Mais je n'ai pas vu grand-chose sur Simon Vouet depuis, je le regrette bien. J'en appelle au conservateur du Louvre. Mais Vouet, avec à côté de son poste très officiel de peintre de la cour, est allé en Italie et en a rapporté des tableaux tout à fait inattendus et qu'on n'attendrait pas, et tant mieux s'ils sont inattendus, de la part d'un peintre de cour, en particulier ce tableau qui représente un travesti, et donc nous sommes en 1620 ou quelque chose comme ça, et qui fait le geste très grossier de la figue, dont tout le monde sait aujourd'hui ce que ça veut dire.
Bien sûr. Jérôme Bosch aussi, vous en parlez au sujet de Fellini, bien sûr, un petit peu, il y a toujours des clins d'œil comme ça. Vous aimez, en fait, ce qui vous plaît, c'est toujours de recréer votre musée imaginaire aussi en écrivant. Enfin,
mon musée imaginaire est ma vie réelle, car moi, ma vie, c'est ça. Je vis beaucoup plus, peut-être, dans l'art, la littérature, la peinture et le cinéma, que je ne fais autre chose. Je passe ma vie à écrire, à lire, à aller dans des musées, à aller au cinéma. Je fais ça beaucoup, je ne fais peu d'autres choses au fond dans la vie, donc c'est pas tellement imaginaire. La réalité de ma vie, c'est ça, et je reconstitue ça de manière tout à fait spontanée pour moi. Ça ne me paraît pas exceptionnel d'ailleurs, je veux dire, ça fait partie de ce... Je suis redevable à ces gens-là, hein. Voilà. Beaucoup de mes livres, sont fondés sur cette idée que je suis redevable aux fantômes. J'ai été créé par des fantômes, enfin pas créé, mais c'est eux qui ont évoqué en moi ce que je ne savais peut-être pas bien que je transportais, et je leur dois beaucoup de choses. Je dois à Egon Schiele, je dois à Van Dyck, mais je dois à Proust, mais je dois à Petrone, mais je dois à Shakespeare, mais je dois à Fellini. Ces gens-là ont... Je pense que les gens qui créent des choses artistiques sont des gens très minoritaires, qui s'intéressent à des choses très minoritaires et qui se parlent à eux-mêmes. Ils se parlent à eux-mêmes, ils nous parlent depuis toujours parce que nous transmettons les uns et les autres des choses très fragiles, très délicates et qui ne sont pas tellement transmises par les autres.
Et il y a aussi le geste du danseur. Ça, j'ai bien aimé. Vous dites que le danseur serait un idéogramme. Donc c'est vrai, parce que c'est un corps dans l'espace.
Exactement, oui, il y a beaucoup de danse dans mon livre. Merci de le rappeler parce que je l'avais oublié depuis que je vous parle. Et la danse est très intéressante dans le sens de ce qu'elle a fait avec les gestes. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, la danse a été, enfin en tout cas la danse occidentale, a été narrative. Et nous avons les ballets classiques de petits pas où on raconte la Belle au bois dormant et une danse narrative un peu emprisonnée dans la littérature. Et puis au XXe siècle, elle s'est libérée de ça et ça a été une révolution artistique dont on n'a pas idée peut-être, mais tout d'un coup elle s'est débarrassée de la narration, ce qui lui a permis d'inventer là aussi des gestes en dehors de toute symbolique et toute psychologie qui sont passionnants. Ça, c'est une chose merveilleuse de la danse et de la danse contemporaine en particulier. Et ce que vous avez cité est ma conclusion de ce que je dis des gestes des danseurs, c'est ça, c'est qu'effectivement un danseur est un idéogramme.
Et puis des gestes plus contemporains. On voit un dessin d'ailleurs de Dieter Brando, je crois, avec une tablette de lecture. Donc il y a deux œuvres contemporaines, deux oui. ou trois œuvres dans votre livre oui. dont vous pourriez parler.
Eh bien, ce dessin de Dieter Brandau m'a beaucoup intéressé car c'est un geste, une représentation de gestes contemporains à partir d'un objet nouveau. Car nous créons aussi des gestes en fonction des objets que nous inventons et qui sont nouveaux. Et ce Brandau représente un homme qui lit avec une tablette électronique et le geste n'existait pas avant. Cet homme est allongé, il tient la tablette de ses doigts de la main gauche en crochet posée sur sa hanche et qui est une forme de lutrin créé par ses mains et sa hanche mais qui n'existait pas auparavant. Et les objets nouveaux engendrent souvent des gestes nouveaux. Je donne dans mon livre l'exemple de la cigarette électronique par exemple, qui est un objet assez moche et qui crée des gestes assez moches.
Et puis j'apprends même que Apple, ils ont déposé même un brevet pour un geste.
C'est monstrueux. Ils ont essayé de déposer un brevet pour se faire payer le geste qu'on appelle en anglais de pinch to zoom. Vous savez, qui est le geste avec le pouce et l'index de resserrer ou d'écarter sur l'écran d'un téléphone portable. Et ils ont tenté de déposer un brevet pour se faire payer pour ça, ce qui est quand même, pour moi, une forme de barbarie capitaliste à son dernier degré, c'est-à-dire vouloir faire payer une image, un geste, les seuls gestes qui soient payants, mais qui sont payants par accord de ceux qui le font, ce sont les gestes de la prostitution.
Un dernier clin d'œil, je crois, c'est un portrait possible de Thomas McKellar. Page 314, d'ailleurs, c'est un geste de détente. Est-ce que ça fait partie de votre collection personnelle, ce tableau ?
Hélas, non, parce que je le trouve très beau. On a longtemps pensé que c'était un dessin de Sargent, et en fait, il a ensuite été attribué à Sargent, et on ne sait pas bien à qui il est, mais c'est il est supposé représenter ce McKellen, qui était un ami et peut-être l'amant de Sargent, dans une position de repos, mais si quelqu'un veut l'acheter et me l'offrir, je prends.
Bon. On peut conclure aussi que le geste est une œuvre d'art.
Bien sûr, à son meilleur, le geste est une œuvre d'art. Et c'est pour ça qu'on ne sera jamais assez reconnaissant aux artistes qui le représentent ou qui tiennent le registre de le faire.
Une dernière question, j'aurais vovoulu connaître votre regard sur l'œuvre de Bacon, par exemple. Parce que quand même, là, il y a du mouvement, il y a du flouté. Peut-être qu'on pourrait presque parler des fois de gestes manqués. Je ne sais pas, je voudrais connaître un peu votre regard sur Bacon.
Je trouve que Bacon est un très grand artiste qui a inventé quelque chose de très nouveau, qui est ce que nous savons d'ailleurs. Je pense que l'art n'existe qu'en fonction des artistes. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, moi je ne crois qu'aux êtres et aux personnes, et l'art n'est jamais détaché des artistes. Et nous savons tous que Bacon était masochiste. Donc il a transformé son masochisme de façon ouverte et franche dans sa peinture, et ça n'avait jamais été fait. Et après tout, l'expression d'un mode de vie nouveau, ou la nouvelle expression d'un mode de vie, est une chose prodigieuse. Si je pense, c'est une chose qui avait été vaguement montrée dans le roman de Zahrer Mazor. Pasolini, qui était masochiste, n'a jamais décrit ça dans ses livres ni dans ses films, et Bacon a été le premier à le faire. Et c'est pour moi très intéressant, votre question est très intéressante, car c'est là, chez lui, c'est là où le geste, qui est un geste de torture, cesse d'être un geste pour devenir un tourbillon. Et pour moi, le résumé de Bacon, c'est un typhon qui s'en va au fond d'une bonde, comme ça. Et on sent l'aspiration par le bas et par le fond d'une douleur. Et c'est une expressivité inouïe qu'il a apportée à l'histoire de l'humanité.
Désintégration du geste, et bon, on pourrait aussi parler, côté sculpture, du dialogue par geste de Rodin et de Camille Claudel, mais c'est peut-être une longue histoire.
Mais là, je ne voudrais pas que vous me fassiez finir par deux artistes qui ne sont pas les plus chers à mon cœur.
lesquels sont les plus chers à votre cœur ?
Oh, écoutez, asseyez-vous confortablement et nous sommes là jusqu'à demain matin. Mais je vous ai parlé de Picasso, Manet est un peintre pour moi majeur, Van Dyck, les maniéristes italiens, eux aussi qu'on appelle maniéristes à tort, mais Bronzino est pour moi un grand peintre. J'aime beaucoup, pour venir dans les temps plus contemporains, González Torres, qui était pour moi un très grand artiste. J'aime beaucoup Carlos Cruz Diez dans l'abstraction géométrique contemporaine. Je n'en finirai plus de citer des artistes, parce qu'encore une fois, je vis avec eux. Je pourrais vous citer Watteau, je pourrais vous citer Fragonard, je pourrais vous citer... Vraiment, je n'en finirai plus.
Les ateliers d'artistes aussi sont importants quand vous allez voir des amis artistes.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un geste d'ailleurs assez beau quand vous allez voir un ami artiste dans son atelier et qui fait le geste de s'avancer vers ces tableaux retournés qui sont par terre et d'avancer la main pour tirer vers vous ce tableau et vous le montrer. Il vous fait une offrande comme ça et vous découvrez quelque chose par ce geste de tirer une toile quand c'est une toile à soie qui est quelque chose de très beau.
Merci à vous Charles Danzig.
Merci beaucoup.
C'était Entre nous soit dit sur Art District. Merci d'avoir écouté cette émission qui est rediffusée le jeudi à 16h et que vous pouvez également réécouter en podcast sur notre site internet. Excellente suite de nos programmes sur Art District.